sur la montagne de Jésus que l'auteur Matthieu avait enregistré. Nous sommes en train d'étudier la divine biographie de Jésus, dont la première partie est, souvenez-vous, concernant Jésus qui donne les paraboles du royaume de Dieu. L'aumône, la prière, la jeûne se tendent vers les trésors du ciel pour les êtres humains. Jésus donna précédemment deux belles paraboles de lys et des oiseaux pour que l'homme ne s'inquiète pas de la vie dans le monde réel, mais tourne le regard vers le Dieu éternel qui siège dans le royaume de Dieu. Ce passage sur le bâtisseur sage ou prudent à la première vue ne concerne que la vie sur la terre. Mais si nous lisons attentivement et avec prière, nous nous apercevons qu'il est une des paraboles qui touche au royaume de Dieu. Toute la maison sera détruite à la fin, mais il y a une maison qui ne se détruit pas. C'est la maison bâtie sur notre foi, bâtie par notre foi en Dieu éternel. Ici, le bâtisseur sage est celui qui fonde sa maison sur les paroles de Dieu. Sa maison ainsi solidement bâtie en vient résister à tous les intempéries de sa vie. Que Dieu vous fasse bâtir une maison solide sur ses paroles pour que vous soyez bénis par lui. Premièrement, il ne faut pas juger. Le verset 1 dit: ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Nous ne devons pas juger les autres. C'est parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus. De plus, nous n'avons aucune autorité de juger les autres. Que ferons-nous alors pour ceux qui méritent le jugement? Nous devons prier pour eux, de sorte que Dieu puisse les aider. Nous devons embrasser avec la grâce de notre Seigneur Jésus ceux qui méritent le jugement. Cela était l'âme du Seigneur. Cela était la compassion de Jésus. Cela était le cœur de Dieu. Ésaïe 11:3b dit: il ne jugera pas selon les apparences, il ne jugera rien d'après les racontars. Si Dieu juge, par ce qu'il voit avec ses yeux, alors personne ne sera resté sur la terre. Si Dieu juge d'après des racontars, tout le peuple sur la terre sera condamné. Nous nous souvenons de comment Jésus priait ardemment pour les brebis de Dieu au lieu de les juger. L'attitude de jugement est le signe d'un chrétien immature. Un jeune homme étudiait la Bible plusieurs fois, puis il devint très présomptueux. Donc il visita sa famille et condamna à jugea sa mère pour sa fidélité, et puis il condamna, jugea son père pour sa mesquinerie, et puis il condamnait, jugeait un de ses frères, un de ses amis. Après les avoir condamnés et jugés, étrangement, il commence à se sentir jugé Évidemment, dans cette affaire, le diable creuse le rigole dans son âme à travers son pharisaïsme et s'est mis à le tourmenter et le condamner. Après, il commence à souffrir d'une habitude de suralimentation, hystérie et insomnie. Pour un chrétien immature, il est facile de juger les autres au lieu d'embrasser les autres avec une batte de baseball. Seulement pour être battu avec une massue en retour. Si nous jugeons les autres, nous ne pouvons plaire à Dieu. Et nous devenons seulement les pharisiens hypocrites. Avant de rencontrer Jésus, il y avait un garçon très présomptueux. Il fut éduqué dans une école renommée, dont l'une des devises principales basées sur le confucianisme était le respect absolu des grandes personnes. Il était tellement attaché qu'il ne put supporter la moindre faute des autres qui violaient cette devise. Un jour, il monta dans un bus et trouva qu'un garçon gardait sa place assise si courageusement devant les personnes âgées, debout. Et dans sa colère intérieure, il alla et se lui adressa avec un ton menaçant, si bien qu'il se lève tout de suite avec un air ahuri et cède la place à la personne âgée. Après quoi, il bombait sa poitrine en pensant qu'il est digne d'être écolier de cette école renommée, que tous reconnus par son vêtement uniforme. Il était un peu comme ce Paul avant sa conviction, et il était si fier d'être pharisien et juger les chrétiens impitoyablement. Mais en fait, il s'était trompé car il n'était qu'un des plus misérables pécheurs. Le fait qu'il ne cessait de confesser après sa conversion. Pratiquement, juger signifie qu'une personne voit les faiblesses des autres et les critique. Elle ne réalise pas qu'il est le même pécheur. Regardez le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La paille peut se comparer avec les échecs moraux ou la défection doctrinale. La poutre peut se comparer à un homme qui n'a aucun Dieu dans son cœur. Si nous critiquons de façon harcelante les autres, alors que tous nous tolérons nos propres injustices, nous sommes hypocrites et les hommes qui n'ont pas de Dieu en eux. Comment pouvons-nous éviter ce terrible péché de juger les autres? Regardez verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras. Comment ôter la paille de l'œil de ton frère? Par rapport à ce dernier mot, il est vrai, comme quelqu'un a dit, que si on ôte la poutre de son œil, on peut en arriver à savoir quoi dire sur les faiblesses des autres. Nous devons être stricts envers nous-mêmes devant Dieu en nous repentant de tous nos péchés, moment par moment. Mais nous devons avoir le plein cœur de prière au sujet des péchés des autres. La meilleure façon d'éviter le péché, de juger les autres, est de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, dans sa grande miséricorde, ne versa pas sa colère et son courroux sur nous quand nous péchions contre lui. Au contraire, Dieu a envoyé son seul et unique Fils pour le faire mourir pour nos péchés. Paul, quand il était seul, condamné, jugeait les autres. Mais après que Jésus entra dans son cœur, il prenait soin du troupeau de Dieu plein de faiblesses. dans Acte 20, 19, il dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, et que me suscitaient les complots des Juifs. » Paul le faisait parce qu'il se souvenait de la grâce de Dieu, et qu'il était un terrible pécheur, et que par la grâce de Dieu, il devint enfant de Dieu. Il écrit dans 1 Corinthiens 15, 9 et 10 ans, « Car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Paul savait qu'il était un pécheur pardonné. Paul savait qu'il n'avait aucun droit de juger les autres. Paul savait que seul Dieu est le juge. Pendant la conférence, missionnaire Paul, suisse, dans son témoignage, parlait d'un frère qu'il sert. Il le jugeait en se disant, « J'ai fait tout pour qu'il ait le travail, la carte, etc. dans le travail, dans sa société, puis en donnant régulièrement la parole. Mais elle restait toujours la même, égocentrique, en cherchant son propre intérêt. À un moment donné, je me suis dit, quel ingrat! Alors, je ne veux plus le servir, mais je le sers à cause de sa mère, qui est veuve, comme la mienne. Et la veuve veut toujours que son fils devienne un homme. Mais il confessa que sa pensée était erronée et qu'il se répand profondément, qu'il n'a pas assez d'amour envers lui. En écoutant son témoignage, j'étais très touché. En fait, je pensais que je suis parmi les anciens, mais j'ai beaucoup de honte devant les luttes si sincères de nos collaborateurs en Europe. La réunion de présentation de témoignage est pleine de larmes. Mais je n'ai pas versé les larmes. Quand il en était de même pour nos collaborateurs en France, quand j'ai jugé les brebis dont la croissance me paraissait si lente, ma collaboratrice m'a supporté et prenait soin d'elle, en sorte que maintenant, elle commence à voir la semence, la foi. Deuxièmement, demandez à Dieu par la prière. Regardez le verset 7, lisons ensemble. On dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Puis Jésus répète encore cette phrase sous une autre forme en disant « Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Nous avons appris la semaine dernière que nous devons prier non de façon formaliste pour être vu, mais de façon sincère, conforme à la volonté de Dieu. Cette fois, Jésus souligne quelle est la récompense d'exaucement pour ceux qui prient. Quand une personne prie sincèrement, il est légitimement autorisé à attendre de la part de Dieu l'exaucement de ce quoi il prie. Or, dans la prière, la sincérité est un élément fondamental. Si, après avoir demandé dans la prière, notre requête n'est pas accordé, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne faut pas abandonner. Et nous devons chercher Dieu dans la prière jusqu'à ce que nous le trouvions. Si notre requête n'est toujours pas accordée, alors nous devons frapper jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Ceux qui ne prient pas sont remplis de colère et des idées en travers. Mais pour ceux qui prient sincèrement, Dieu est là et Dieu devient son aide. Alors, qu'est-ce que nous devons prier? Pour nos besoins, n'est-ce pas? Nous avons déjà appris qu'il faut prier pour nos pains, nos pardons, et de nos péchés et de ceux des autres, et la délivrance du malin. Mais nous devons prier pour le don spirituel en notre faveur. D'abord, nous devons prier pour que Dieu fasse descendre sur nous la puissance de la foi. La puissance de la foi provient de la croissance absolue à la promesse de Dieu. Croyez-vous? Amen. Chaque fois que la parole sort de notre bouche, elle peut être comme une flèche aiguë et le bruit tonitruant. Nous vivons dans une époque où toutes les idées sont relatives. Les gens considèrent la parole de Dieu relativement. Or, nous ne pouvons pas avoir accès à la puissance de la foi. Mais la puissance de ceux qui croient absolument à la promesse de Dieu est énorme. Les disciples étaient faibles. Ils avaient la prémonition de la mort quand ils virent Jésus purifier le temple. Et ils se tremblaient. Mais Jésus avait la puissance de la foi dans cette ambiance de l'hostilité croissante des leaders religieux. En passant, il vit un figuier et il maudit parce qu'en s'approchant, il ne voyait pas de fruits consommables. Peut-être qu'il s'était figuré la situation stérile de la classe religieuse de l'époque. Or, en passant le lendemain, les disciples remarquèrent que le figuier est séché jusqu'aux racines. Ce qui les stupéfie. Mais Jésus défia les disciples faibles. Pas la foi. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Que Dieu nous donne la puissance de la foi pour être puissant berger des brebis égarées dans ce monde. Ensuite, nous devons prier pour la sagesse de Dieu. Au début, Jacques était un homme plein d'ambition politique. Mais par le soin de Jésus, il devint homme de prière et homme de sagesse. Donc nous appelons le livre de Jacques, livre de proverbes du Nouveau Testament. Jacques 1:5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire reproche, et elle lui sera accordée. » Dieu répond à toutes nos prières de la meilleure façon. Dans le verset 9, Jésus dit, « Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Jésus promet qu'il donnera les dons, les bons cadeaux à ceux qui lui demandent. Si nous regardons le Luc 11, 13b, il est dit, « À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Ici, nous apprenons que nous devons demander à Dieu de nous donner l'Esprit Saint. De nous donner quoi?
L'Esprit Saint.
Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, est le meilleur cadeau pour chaque personne individuelle. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons être remplis que par le mauvais esprit. Il y a une belle histoire de Saint-Esprit parmi nos collaborateurs français que je voudrais partager avec vous. Quand l'Esprit Saint vient, il dégage ce qui nous bloque. Nos yeux, nos têtes se clarifient pour voir les noyaux des choses. Une enfant trouve l'aide de sa famille brisée, arrivant en France, appartenait au dernier rang de la classe, comme c'était le cas où il était en Corée. Et c'était normal, parce qu'il avait la barrière de la langue. Pourtant, elle sut accepter sa situation humblement et dit à quiconque est rencontré qu'elle deviendrait une coiffeuse. Maintenant, Dieu l'aidant, elle devient quatrième dans la classe, selon son oncle d'accueil, en sorte qu'elle soit obligée de réorienter son avenir. Cela me paraît miracle, mais c'était sûrement l'œuvre du Saint-Esprit. Dans mon analyse, le rôle de sa tante qui l'avait accueilli malgré ses deux enfants, mais qui priait sans cesse pour elle par l'Esprit, me paraissait un rôle non négligeable. Je souhaite que tous nos mères, surtout les mères qui ont des filles, soit ses imitateurs. La foi de cette adolescente m'a beaucoup touché et m'a même influé dans la saisie de ma direction de nouvelle année, devenir l'homme ayant plus d'esprit. Cette histoire est venue bien entendu du ministère de Marla par Navalé. Regardez verset 12. Tout ce que vous voulez et que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour, car c'est la loi des prophètes. Si nous nous aimons les uns les autres en Christ, nous accomplissons la volonté de Dieu. Mais si nous nous haïssons les uns les autres comme les incroyants, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Il y a quelques années, aux États-Unis, un groupe religieux bizarre et un professeur se critiquaient l'un l'autre dans un journal pendant plusieurs années. Le groupe religieux ne pouvait pas tabasser le professeur verbalement, mais le dispute s'arrêta quand quelques jeunes du groupe religieux versaient un baril rempli d'urine sur le professeur du plafond pendant qu'ils critiquaient le groupe dans la réunion. Depuis lors, le professeur cessa de critiquer le groupe parce qu'il ne voulait pas inviter un autre baptême d'urine. Les gens enfantins sont rapides à critiquer, mais ne connaissent jamais comment prier pour édifier les autres. Le peuple de Jésus ne doit pas critiquer les autres. Pourtant, pointant le doigt brusquement aux faiblesses des autres. Par contre, nous devons prier que Dieu les aide, parce que le criticisme détruit. Mais la prière guérit. Deuxième partie, le vrai grand homme, verset 13 et 23. Cette partie nous enseigne trois choses qui nous rendent grands aux yeux de Dieu. D'abord, le sage choisit la porte étroite. Qui sont les hommes sages? Aux États-Unis, le Conseil de Constitution est composé des hauts hommes de jurisprudence appelés les sages. Donc, eux sont censés diriger la nation par la loi véridique. Mais les vrais sages sont ceux qui suivent Jésus. Les hommes sages sont ceux qui suivent le chemin de la foi de Jésus. Les sages sont ceux qui supportent la douleur d'enfantement, les vraies vies de Dieu. Aux yeux des gens du monde, ils sont stupides, car ils suivent le chemin douloureux plutôt que le chemin facile. Mais ils sont sages, car Dieu les aime et leur donne l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens choisissent le chemin de liberté, la gloire, le plaisir et l'accomplissement académique. Bien sûr qu'ils paraissent sages aux yeux du monde, mais ce chemin ne mène pas à la vraie vie. Il mène plutôt à la destruction. La porte étroite est vraiment étroite. Très étroite. Peut-être comme Alissa dit dans le roman d'André Gide, La porte étroite, la route qu'il nous enseigne est une route étroite. Étroite à n'y pouvait marcher deux de front. Mais si étroite de la sorte soit-il, nous ne devons pas choisir le chemin large qu'on s'en juge du monde. Nous devons nous efforcer d'y entrer. Jésus dit, je suis la porte de la verrugerie et je suis le chemin. Donc, quand Jésus dit d'entrer par la porte étroite, celle-ci se réfère à Jésus lui-même. Entrer par la porte étroite et donc imiter Jésus. Donc, il s'agit d'un problème, il est aussi un problème du choix. Donc, entrer par la porte étroite signifie choisir Jésus clairement et se mettre du côté de Jésus absolument. Le mode de pensée des gens du monde est ceci. Bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Dans la peinture de la porte étroite, dans le large chemin, c'est à côté gauche, il y a beaucoup de gens qui s'encouragent les uns les autres. Par exemple, les ivrognes s'invitent à boire et les joueurs s'invitent à jouer. Dans la fête, dans le casino, dans le bal, ils s'amusent sans contrainte. Ce qui est tragique, une fois engagés, les gens ne peuvent se dépêtrer de leur chemin. Il y a une infranchissable entre la route à la mauvaise compagnie et la route solitaire de la foi. La peinture dépeint que celle-ci seule mène à la gloire éclatante du royaume de Dieu, et tous ceux qui sont sur le chemin large courent vers le feu éternel. Que signifie imiter Jésus pour entrer par la porte étroite? Ce n'est pas simplement dire Seigneur, Seigneur, et ce n'est pas non plus de participer au culte de dimanche. C'est suivre le mode de vie de Jésus. Jésus, malgré sa royauté céleste, descendit sur la terre pour servir les hommes pécheurs. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est une phrase si belle que beaucoup choisissent comme le verset clé de la vie. Dieu a le désir d'apprendre la vie de Jésus. Si belle. Mais le servir et de renoncer à sa fierté et au sentiment de supériorité. Les gens se disent en général, « Moi, je suis légèrement mieux que celui-ci. Mon choix est un peu plus qualifié que les choix des autres. » Mais ce mode de pensée est le chemin qui ne mène pas à la vie, mais qui mène à la perdition. Ensuite, un grand homme a l'image de Jésus. Dans cette partie, Jésus indique que ceux qui portent du bon fruit sont vraiment grands hommes. Le chrétien est appelé à montrer à son alentour le chemin qui mène à la vie Jésus. Il est voué à être un pont que les brebis piétinent pour atteindre à l'autre rive où est la porte étroite appelée Jésus-Christ. Jamais un berger qui attire le regard de la brebis vers lui-même ne peut porter du fruit. Comment pouvons-nous porter du fruit? Le meilleur chemin est, comme nous avons dit, d'imiter Jésus. La description doctrinale ou la conduite ritualiste ou les mouvements des doigts ne peuvent être la mesure de la grandeur d'un homme. Si nous imitons quotidiennement Jésus-Christ, nous sommes amenés à porter de bons fruits. Alors, qu'est-ce qui est la meilleure de la grandeur d'une personne? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui est la mesure de la grandeur d'une personne? La vraie grandeur d'un homme n'est pas son accomplissement, mais elle se repose sur le degré auquel il peut imiter Jésus. Par exemple, Paul est un grand homme parce qu'il était volonté de faire toutes choses au nom de Jésus. Philippiens 1:21 dit, « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Or, son apprentissage était sans mélange, pur et honnête. Si un disciple imite son maître, il lui est exigé un apprentissage entier. Par exemple, il doit imiter en tout sa philosophie, sa connaissance, son élocution, même son habitude de marcher. Avec un double cœur, il est impossible d'imiter. Le cœur sans partage rend possible d'imiter quelqu'un. De la même manière, nous avons besoin d'imiter Jésus avec le cœur entier, afin que nous soyons de vrais grands hommes. Autrefois, Paul était observé la loi, envie d'être vu et obtenir la gloire du monde au milieu des hommes, ou en tant que premier disciple du savant Gamaliel. Mais maintenant, il fit tout pour être reconnu par Jésus-Christ lui-même. Quoiqu'il fût déjà un grand serviteur incomparable avec aucun homme, il avait toujours ce désir inextinguible de croître à l'image de Jésus-Christ. Une femme missionnaire américaine était très belle quand elle était jeune. Mais son œuvre d'évangélisation des étudiants grandissait si spectaculairement qu'il n'avait aucun temps de prendre soin d'elle-même. Dans le processus de l'enseignement de la Bible aux étudiants, elle était si occupée qu'elle lui sacrifiait son mariage. Quand elle le fit, elle forma l'image de Jésus dans son cœur, particulièrement le caractère désintéressé de Jésus-Christ. Parce qu'elle n'était pas mariée, elle était fréquemment très triste et solitaire. Mais lors de la dernière conférence de Perdu, nous n'avons pu y trouver une moindre allusion de l'apitoiement en soi et dans sa vie de foi. Y en dit-on, il est comme son père. De même, chacun de nous peut être comme Jésus en ayant une relation personnelle avec Jésus. Le résultat d'être comme Jésus est devenir un grand homme. Si une personne a l'image de Jésus, il peut être une bénédiction aux gens alentour. Et il peut être une bonne influence et une très belle lumière. Il peut guider le peuple à Dieu. En bref, il peut porter beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu veut de nous le plus. Troisième partie, l'homme prudent et l'homme sage. L'homme sage et l'homme insensé. D'abord, l'homme prudent. Versets 24-25. Cette partie est la conclusion du sermon sur la montagne. Il se clôture avec une histoire sur un bâtisseur prudent et un bâtisseur insensé. Il nous enseigne comment être un homme sage. Qui sont les hommes sages? Regarde verset 24. Disons ensemble. Ici. Ainsi, quiconque attend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les hommes sages sont ceux qui entendent les paroles. Dans ce verset, entendre les paroles est différent de notre banale conversation qu'on fait à travers la parole et l'écoute. Entendre ces paroles est semblable aux sujets royaux qui entendent le décret de le roi avec l'attitude d'y obéir absolument. Si nous entendons ces paroles relativement, nous ne pouvons être hommes sages. Nous pouvons être comme Lot et ses filles. Ils entendirent les paroles de Dieu relativement. Par conséquent, ils devinrent les gens les plus insensés dans le monde, dans la Genèse. Les petits amis des filles de Lot entendirent les paroles de Dieu données par les anges comme si elles étaient une plaisanterie. Et il devint homme de plaisanterie dans l'histoire Genèse. Cependant, il y avait aussi beaucoup de gens qui ont entendu les paroles de Dieu et bâti leur maison sur le roc. Abraham entendit les paroles. Tu seras une bénédiction de tout son cœur. Alors il devint une bénédiction. David entendit, j'affermirai pour toujours ton trône royal de tout son cœur. Alors il devint un homme qui a le cœur selon Dieu. Pierre entendit, tu seras pécheur d'homme de tout son cœur et garder ses paroles. Coûte que coûte. Alors il devint le plus grand enseignant de toute l'humanité concernant le royaume de Dieu. Jésus entendit de au-delà, ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous devons aussi entendre. Entendre la parole divine de la part de Dieu. Aujourd'hui ou demain. Entendre n'est pourtant pas suffisant. Nous devons mettre les paroles de Dieu en pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire?
En pratique.
Jésus demande notre obéissance implicite. Et quand nous obéissons aux paroles de Dieu absolument, Dieu s'en réjouit et nous sommes bénis en retour. Et quand nous obéissons aux paroles de Dieu absolument, nous pouvons étendre le territoire du royaume de Dieu et nous pouvons être appelés fidèles serviteurs. Dans notre église, Dr. John John est un bon exemple de la maison bâtie sur le roc. Il dit une fois, même si Dr. Lee, le fondateur de notre église, quitte la mission, je resterai à la mission pour le salut des étudiants du campus, car Dieu m'y a appelé certainement. À vrai dire, on s'inquiétait du futur de notre Église après le décès de Dr. Lee. Mais dans 5 continents, il y a l'œuvre de la continuelle fondation par la parole de Dieu, grâce à sa prière. Je m'inquiétais de l'avenir de notre Église après son départ, car il est une des personnes qui reçut l'héritage de Dr. Lee. Mais pas la parole d'aujourd'hui. Cette inquiétude n'a pas de raison d'être. Dieu réalise son œuvre par ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui obéissent aux paroles de Dieu peuvent fonder une ferme fondation pour leur vie en même temps que la maison de Dieu. Ceux qui entendent ces paroles et les mettent en pratique, sont stables. il nous paraît y avoir beaucoup de choses à faire dans notre vie, mais une chose est fondamentale. Entendre ces paroles et mettre ces paroles en pratique. C'est la première chose à faire pour nous. Alors, que devenons-nous quand nous fondons notre maison sur les paroles? Lisons le verset 25. Alors, dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé, elles se sont portées sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Ensuite, les hommes insensés. Qui sont les hommes insensés? Ils sont ceux qui entendent ces paroles et ne les mettent pas en pratique. Ils sont comme les bâtisseurs fous qui bâtissent leur maison sur le sable. Fondamentalement, les gens insensés sont les gens paresseux. Ils ne veulent pas se donner la peine de creuser en profondeur jusqu'au lit ou au roc d'en bas. Ils obéissent aux paroles superficiellement et principalement à cause de leur paresse. Ils ne se soucient pas du fait que le désastre se trouve devant eux. Lisons le verset 27. On dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les hommes sages sont les hommes de vision et de prophétie. Les hommes sages ont un sens d'histoire de Dieu. Mais les hommes insensés sont des petits hommes, ces petits hommes, avec une vision étroite et un préjugé. Les communistes promettaient le bonheur à travers la prospérité matérielle. Mais cela rendait seulement les gens impies. Les leaders des pays démocratiques promettent le bonheur à travers la liberté sans frein. Mais cela ne fait que rendre les gens plus immoraux et violents. Maintenant, c'est le temps pour nous d'entendre les paroles de Dieu et les mettre en pratique. Que Dieu bénisse. Lisons le verset 24, on dit... Ainsi que donc entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je vais prier. Seigneur, nous avons appris la dernière sermon, partie de sermon sur la montagne. Seigneur, aide-nous à demander et par la prière avec la foi. Seigneur, que tu descends beaucoup de dons spirituels pour que nous soyons forts et être spirituels. Seigneur, je prie surtout par la parole d'aujourd'hui, entrer par la porte étroite suivant le mode de vie de Jésus-Christ et bâtir notre maison sur le roc en obéissant à la parole de Dieu. Je crois que c'est quelque chose de fondamental lorsque nous vivons dans un monde rationaliste et relatif. Fais-nous être attachés à la vérité éternelle qui est enseignée dans la Bible, même si les autres ne n'y croient pas, et nous être inébranlables ou croire que c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité de Dieu, et le suivre et l'appliquer dans notre vie, absolument. Merci, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.